Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
Les couilles sur la table, saison 2, épisode 1. Les orgasmes masculins. Cet été, j'ai pris le temps de lire, de danser, de voir des amis et de beaucoup parler de sexe. Et de toutes les histoires que j'ai entendues, c'est dégagé une impression générale. C'est fou quand même le nombre de choses qu'on se sent obligé de faire ou le nombre de choses qu'on s'interdit de faire dans sa vie sexuelle pour correspondre à ce qu'on croit être normal. C'est fou la pression qu'on se met tous et toutes pour bien jouer nos rôles de genre. Pour les hommes, par exemple, c'est se vanter de s'être fait telle ou telle fille pour montrer qu'on est un mec, un vrai. Mais aussi avoir tellement peur de pas bander, s'excuser quand on estime qu'on a joui trop vite. Où est le plaisir dans tout ça ? J'ai aussi relu King Kong Theory, l'indispensable essai féministe de Virginie Despentes, publié en 2006, toujours d'actualité, et j'ai encore été marquée par ce passage, page 28, quand elle écrit que la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige au juste être un homme, un vrai, écrit Despentes ? Être angoissé par la taille de sa bite ? Museler sa sensualité ? Craindre son homosexualité car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré. Et n'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Alors pour commencer cette nouvelle saison des couilles sur la table, je me suis dit que ça serait bien justement de faire un peu de culture sexuelle avec un invité dont c'est la passion. Bonjour Adam.
Bonjour Victor Taillon.
Adam, vous avez créé il y a 10 ans NouveauPlaisir.fr, qui est un site internet indépendant d'informations et d'échanges sur le plaisir sexuel, avec des articles, des guides, des publications de témoignages et des forums fréquentés par des gens qui s'échangent sur leur expérience, leurs ressentis et leurs techniques. Vous, vous êtes en couple, hétérosexuel, et vous militez pour une sexualité, je vous cite, « respectueuse, inclusive et ludique ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que j'ai créé ce site pour pouvoir passer de l'information, en fait, et puis informer les gens sur toutes les sexualités, y compris toutes les pratiques. Parce que dans la société, il y a un énorme manque d'informations, en fait, sur ça. Donc, voilà.
Vous avez écrit le traité de la Néros. Alors, c'est un guide d'une cinquantaine de pages en accès libre sur Internet pour apprendre à découvrir l'orgasme prostatique. Je précise que vous n'êtes ni médecin ni chercheur, mais si j'ai décidé de vous inviter vous plutôt qu'un scientifique, c'est parce que je me dis que ça n'est pas seulement par la science et les études scientifiques que nous apprendrons de nouvelles choses sur le plaisir sexuel. Quand on pense que l'anatomie exacte du clitoris n'a été décrite qu'en 1998...
Bon. C'est incroyable. Hein.
Puis il y a encore tant de choses qu'on ignore sur les mécanismes du plaisir sexuel. Et je me dis qu'une des manières d'en savoir plus, c'est de documenter nos expériences, de s'en parler librement, d'échanger les unes avec les autres et les uns avec les autres sur nos corps, nos ressentis. Bref, de compter autant sur le savoir scientifique que sur les récits des explorateurs et des exploratrices sexuelles. Et c'est un peu ça que vous êtes, Adam, n'est-ce pas ? Vous êtes quelqu'un qui explorait la sexualité.
Exactement, oui, je me définis vraiment comme un sexplorateur, en fait, on peut utiliser ce mot-là. L'idée, c'est... moi, j'ai toujours été attiré par la sexualité, en fait, et je me suis rendu compte que finalement, elle était... Elle était très faible, en fait. C'est-à-dire qu'on avait une sexualité classique.
Qu'est-ce que c'est la sexualité classique hétérosexuelle ?
C'est une sexualité où il y a finalement assez peu de préliminaires et puis qui est très centrée sur le coït.
Donc, déjà, rien que le fait qu'on appelle certaines pratiques des préliminaires au sens de préliminaires à ce qui serait le plus important, c'est-à-dire un coït pénis-vagin. C'est, ça en dit long sur ce qu'on considère comme étant normal et optimal.
Exactement, et donc la sexualité masculine est vraiment très orientée sur son propre plaisir aussi, sur le plaisir venant du pénis et l'éjaculation, l'orgasme éjaculatoire. Et quand j'ai... finalement, quand j'ai exploré et essayé de découvrir d'autres pratiques, je me suis rendu compte que le nombre d'orgasmes pouvait être largement supérieur et juste l'orgasme éjaculatoire. Et donc, j'ai voulu explorer et puis parcourir différents chemins qui ne sont pas forcément évidents.
Alors, avant de commencer à les détailler un par un, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'orgasmes masculins ?
Alors, je ne peux pas le dire combien de manière exacte, parce qu'on ne peut pas les dénombrer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. On peut commencer par l'orgasme éjaculatoire, ça, c'est, tous les hommes le connaissent, hein, c'est l'orgasme classique. Après, il peut y avoir des orgasmes type prostatique, c'est-à-dire l'orgasme que l'on a à partir de la prostate. Mm-hmm. Et puis tout un tas d'autres orgasmes, par exemple des orgasmes du lobe des oreilles ou des tétons, et ainsi de suite.
Est-ce qu'on peut aussi rappeler la différence entre la jouissance et l'orgasme, entre avoir un orgasme et jouir ?
Ah, c'est très important ça, parce que justement dans la sexualité, l'orgasme en fait est la représentation physique du plaisir, c'est-à-dire que encore que on peut découpler l'orgasme et l'éjaculation, mais moi je définirais ça comme ça. L'orgasme en fait est plutôt la représentation physique du phénomène et la jouissance est, je dirais, plutôt mentale. En fait, c'est le plaisir que l'on a. Donc on peut totalement découpler les deux et avoir beaucoup de jouissance sans forcément d'orgasme et avoir un orgasme sans jouissance.
Ou avec très peu, donc c'est des orgasmes qui sont moyennement agréables.
Oui,
par exemple.
Typiquement, un homme peut très bien se masturber fort et rapidement et avoir un orgasme en quelques, on va dire, dizaines de secondes. Donc c'est un orgasme qui donne très peu de jouissance en fait, alors que dans des relations beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de, je dirais, de temps pour faire monter le désir, l'orgasme et donc la jouissance est beaucoup plus forte.
Ou même il peut ne pas y avoir d'orgasme, mais une jouissance extrêmement forte.
Oui, par exemple...
Si par exemple on se caresse très très longtemps.
Oui, ou dans des pratiques un petit peu plus BDSM par exemple, il n'y a pas forcément d'orgasme, mais il y a beaucoup de jouissance.
BDSM, je précise, donc c'est les pratiques bondage, domination, sadisme, masochisme, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Et ben, on va commencer par les détailler un à un,
oui,
ces orgasmes. Alors, l'orgasme éjaculatoire, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
L'orgasme éjaculatoire, en fait, il se base sur un certain nombre de phases. Il y a déjà une première phase qui est une phase d'excitation, où l'homme va se mettre à bander, et puis, en fait, l'excitation va monter. Les différentes hormones dans le corps vont faire qu'il va bander de plus en plus, en fait, et qu'il va ressentir cette excitation, et tout se met en place. Ensuite, il y a une phase dite de plateau, sur laquelle, en fait, il va pouvoir y avoir un coït, où il peut y avoir une masturbation, que ce soit une masturbation en couple, par exemple, avec un partenaire, quel que soit le sexe du partenaire, d'ailleurs, et ensuite, derrière, un coït avec pénétration. Et puis ensuite, l'intensité monte jusqu'à un pic, et puis, arrivé au sommet du pic d'excitation, en fait, il y a l'éjaculation, qui est le summum en fait du pic d'intensité. Et puis ça redescend très très vite, et puis ensuite derrière il y a une phase que l'on appelle une période réfractaire, qui est plus ou moins longue en fait suivant l'âge de la personne, et puis tout un tas de critères physiques, et qui fait que la personne ne va plus pouvoir bander pendant un certain temps, genre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pour certaines personnes, ça peut être même une demi-journée, voire une journée, suivant l'âge. Donc ça, c'est, je dirais, c'est l'orgasme classique.
Et alors, est-ce qu'on peut avoir ce type d'orgasme-là sans éjaculer ?
Oui, en fait, on peut devenir multi-orgasmique, puisque en fait, en appuyant sur un certain point sur le périnée, en fait, qui sont des points d'acupuncture, d'acupression, en fait. Et donc, le périnée, c'est la zone de muscle qui est entre l'anus et les parties génitales.
Et les testicules. D'accord ?
Et les testicules. Hein. Donc ça englobe, ça va de l'anus, ça remonte par les testicules et ça va jusqu'au partie
génitale.
C'est
un muscle en fait.
C'est le groupe de muscles qui est dans cette zone en fait et qui est très très important pour aussi pour tout ce qui est plaisir. Et puis, le fait de bien connaître ces muscles-là, ça permet vraiment de ressentir beaucoup plus de plaisir, en fait.
Oui, chez les femmes
de
aussi,
contrôler. Oui, absolument. Et donc, suivant où on appuie, si on appuie, alors c'est une zone entre les testicules, en fait, et la base du pénis. Si on appuie assez fort pendant, juste avant l'éjaculation, donc en fait, avant l'éjaculation, on sent le sperme qui va aller des bourses, en fait, vers la prostate.
Qui monte dans l'urètre.
Exactement, voilà. Enfin, qui monte vers la prostate et puis ensuite, ça va éjaculer par l'urètre, pour être précis. Et donc, en appuyant par là, juste avant l'éjaculation, on peut stopper la montée du sperme et donc ressentir en fait un orgasme sans éjaculation. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Alors ça, c'est une technique physique, c'est-à-dire qu'on appuie, on bloque physiquement le sperme. On peut faire la même chose, en fait, en faisant une contraction très forte du périnée, qui a à peu près le même effet.
Alors, on va passer à l'orgasme prostatique. Mm-hmm. En quelques phrases brièvement, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux et celles qui n'en ont jamais entendu parler? Et puis, on va revenir plus en détail sur les techniques et le phénomène. Je me dis que peut-être, il faut déjà expliquer ce que c'est que la prostate.
Ben oui.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne commencent à y penser, à entendre parler qu'au moment où ils risquent d'avoir un cancer.
Oui, c'est ça. La prostate est clairement identifiée dans la société comme, je dirais, à la limite, un organe qui pose plus de problèmes que de plaisir. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut avoir beaucoup de plaisir en provenance de la prostate. Donc la prostate, c'est quoi? C'est un petit organe, en fait.
Une glande?
Oui, c'est une glande, c'est ça, oui. Qui est très importante, en fait, dans la sexualité, puisqu'elle va générer, en fait, un liquide qui va permettre au sperme, en fait, de pouvoir vivre dans le vagin, et donc aux spermatozoïdes de se déplacer, en fait, dans le vagin, et voilà, pour tout ce qui est fécondité. Par contre, cette glande, en fait, qui fait à peu près entre 3 et 4 cm de diamètre, hein, elle est placée, on peut la sentir en mettant un doigt dans l'anus. En fait, elle est juste à portée de doigt. Et cette glande permet de ressentir beaucoup de plaisir quand on la stimule. Alors, la première chose, c'est que on n'a jamais d'information au début provenant de cette glande-là. C'est-à-dire que on ne la sent pas et on n'a pas d'information venant de cette glande. Donc,
à moins d'avoir mal, y a pas de. Voilà, à moins d'avoir un problème.
Voilà, tout à fait. On n'a pas du tout de sensation venant de là.
Donc c'est une glande, pardon, qui n'est présente que chez les individus de sexe masculin.
Oui, placée là, oui, absolument.
Voilà, et elle est, quand vous dites, elle est à un doigt. En fait, elle est pas à un doigt entier. Elle est genre un demi-doigt.
Oui, un petit peu plus. Elle est à peu près à.
Elle est pas au fin fond du rectum.
8 cm. Elle est clairement pas au fin fond du rectum. On peut la toucher quoi qu'il arrive.
Et on peut la sentir aussi quoi qu'il arrive. Donc, je crois qu'elle grossit avec l'âge.
Alors, en fait, elle grossit avec l'âge, ça dépend. Après, il y a des pathologies qui la font grossir. Mais de manière générale, elle grossit aussi avec l'excitation. C'est-à-dire que quand on n'est pas excité, en fait, elle n'est pas engorgée. Au plus on va être excité, en fait, au plus elle va être engorgée, justement par ce fluide qui va être complémentaire au sperme. Donc, une fois qu'on est excité, s'il y a pénétration anale, donc par exemple avec l'index, il suffit de toucher pour avoir l'impression de toucher une espèce de petite noix qui est sous la peau, enfin sous le...
La membrane.
Oui, ou c'est le... ça, la membrane en fait du rectum. Et donc, on la sent très bien.
Ok. Donc, je vous ai coupé pour faire ces précisions anatomiques, physiologiques, mais continuons. Donc, cette glande peut aussi provoquer des orgasmes, alors?
Oui, absolument. En fait, quand on la stimule, on va avoir de plus en plus de plaisir. Et ce plaisir va pouvoir augmenter jusqu'à un orgasme ou des orgasmes. L'avantage, c'est que l'orgasme prostatique n'a pas de période réfractaire parce que ce n'est pas un orgasme éjaculatoire. Donc en fait, on va pouvoir enchaîner un certain nombre d'orgasmes. Moi, je sais que j'ai eu jusqu'à 7, 8, 9 orgasmes d'affilée, qui sont des orgasmes en plus de plus en plus forts. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de descente d'énergie, en fait, l'orgasme va survenir, et puis ensuite on va se reposer un petit peu, et puis on va pouvoir recommencer un ensemble de contractions ou de stimulation de la prostate, et puis on va remonter vers un autre orgasme, et ainsi de suite, pour obtenir des orgasmes en fait, qui à chaque fois sont de plus en plus forts, et puis à la fin on a des orgasmes qui sont très très forts, qui peuvent être même sur l'intégralité du corps en fait. Donc la prostate est très intéressante à travailler. Alors bien évidemment, ça engendre tout un tas de questionnements sur...
Notamment chez les hommes hétéros, hein, puisque quand même c'est un grand interdit dans les normes viriles, c'est d'être pénétré. Si c'était pas un problème d'être pénétré, enculé serait pas une insulte, ou alors on l'utiliserait autant que enculeur, par exemple. Or, on sait tous que enculeur, c'est pas une insulte, alors que enculé, c'est une insulte. Donc on a le droit de pénétrer, mais pas d'être pénétré quand on est un homme.
Alors, ça, c'est la grosse question qu'on me pose toujours.
Oui, parce que, alors voilà, vous faites des ateliers.
Oui.
Avec une sexothérapeute.
Absolument.
Où vous apprenez à des couples à découvrir le plaisir prostatique.
Oui,
Et vous m'avez dit que les hommes vous posent toujours la même question.
Il y a deux grosses questions qui sont posées. La première question, en fait, c'est la question de propreté. Ça c'est un vrai blocage là-dessus, sachant qu'il n'y a pas de problème particulier, en fait. La plupart du temps, le rectum est propre. Donc, avec un certain nombre de précautions, il n'y a pas de problème de propreté. Mais la grosse question, c'est l'orientation sexuelle, en fait. C'est-à-dire que dans la société, dans les croyances et dans la manière que la société présente le plaisir anal, eh bien, les hommes identifient ça comme de l'homosexualité. Ce qui n'a strictement rien à voir, en fait. Parce que d'un côté, il y a une pratique sexuelle, une pénétration anale, et de l'autre, il y a une orientation sexuelle, c'est-à-dire, moi, en tant qu'homme, je suis attiré par d'autres hommes. C'est absolument pas lié. Donc, on peut très bien être hétérosexuel et avoir une sexualité anale tout à fait convenable et riche, sans avoir des attirances homosexuelles.
Mais les hommes vous disent, est-ce que si j'aime le plaisir anal, je vais devenir homosexuel?
Ah, clairement.
Ils vous disent ça?
Oh, oui.
Okay.
Ils ont très très peur.
Ils ont très très peur. Ah oui, j'en profite aussi pour citer cette comparaison de Maya Mazorette, qui dit, pour les hommes qui hésitent qui ne veulent pas du tout entendre parler de leur prostate, elle dit « Vous avez le droit de passer à côté, de même que vous pouvez ne jamais utiliser une pièce dans votre appartement, mais bon, c'est un peu dommage. » Donc voilà, ça existe. Et une fois dépassé cette limite-là de « Mais en fait, je peux pas supporter l'idée d'être pénétrée, est-ce que je vais devenir gay, etc. », les choses intéressantes commencent. Donc, comment est-ce qu'on obtient un orgasme prostatique?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Alors, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce qu'on sait où est la prostate et on sait qu'il faut la stimuler, typiquement à l'aide d'un doigt ou à l'aide d'un ce qu'on appelle un masseur prostatique. Il y en existe de différents types, hein, c'est une typologie de sex toys. Il y en a des vibrants, il y en a des non-vibrants. Et d'ailleurs, le traité d'Aneros, en fait, le terme Aneros vient d'un masseur, du nom de la marque d'un masseur prostatique qui est très très efficace.
Qui à la base, pour la petite histoire, c'est un dispositif médical qui était utilisé pour faire des massages de la prostate pour des hommes qui avaient une prostatite, donc une inflammation de la prostate. Donc vous conseillez d'utiliser un masseur prostatique?
Alors oui, le masseur prostatique, en fait, il est très intéressant pour les hommes seuls, d'accord, ou pour découvrir en fait l'orgasme de la prostate, même quand on est en couple. Ensuite, on peut aussi, quand on est en couple, avoir son partenaire qui fait un massage de la prostate à la main. Donc c'est, on va dire, c'est deux manières de faire.
Ok. Mais pour découvrir le plaisir prostatique, vous pensez que c'est plus simple de le faire tout seul et avec un massage, avec un masseur prostatique?
Oui, parce que, alors, pour fermer la parenthèse et revenir à ce que je disais, en fait, la prostate, comme c'est une glande interne, le cerveau ne reçoit pas d'informations. la prostate. Donc en fait, on a tout simplement, quand on stimule la prostate au début, on a le cerveau ignore toutes les informations, parce qu'évidemment il y a des nerfs sur la prostate et autour de la prostate, mais par contre le cerveau les ignore. Donc c'est parce que le cerveau marche comme une grosse passoire en fait. Toutes les informations qui viennent du pénis, de la peau et ainsi de suite, sont des informations qui sont prises en compte par le cerveau, analysées et transformées en est-ce que c'est du plaisir, est-ce que c'est de la douleur, est-ce que c'est quelque chose de normal ou est-ce que c'est quelque chose d'anormal. Venant de la prostate, en fait, ces informations étant intérieures, le cerveau a pris l'habitude, depuis qu'on est tout petit, de totalement ignorer ces informations et de les jeter à la poubelle du cerveau.
Ok, voilà. D'accord. Schématiquement, ok.
Schématiquement.
Donc il ignore toutes les sensations.
Il ignore toutes ces sensations et il dit, tout ça, je ne le considère pas. Ça vient de l'intérieur et donc tant que ce n'est pas un signal très important de douleur, je l'ignore. Donc il y a une première phase à faire qui en anglais s'appelle rewiring et qui en français pourrait s'appeler recablage en traduction immédiate et qui nécessite en fait de faire un travail pour dire à son cerveau tu vois toutes ces informations qui viennent de la prostate, maintenant tu vas plus les ignorer mais tu vas les associer à du plaisir.
Donc c'est redévelopper une sensibilité en fait.
Exactement.
Prêter attention aux sensations
Exactement.
Qui viennent de la prostate.
Voilà.
Même que c'est un processus qu'on peut faire pour d'autres zones du corps aussi d'ailleurs.
Absolument, et d'ailleurs on en parlera sur les derniers types d'orgasmes en fait, sur les tétons ainsi de suite, mais c'est à peu près le même principe.
Okay.
Pour faire ce travail-là en fait, c'est un travail de visualisation. Donc il faut qu'on visualise, alors en tout cas une des manières d'y arriver, c'est de visualiser, alors moi ce que j'aime bien dire c'est visualiser un globe iridescent par exemple, qui brille et dont l'intensité de la lumière qui est émise en fait dépend du niveau de plaisir.
Mm-hmm.
Donc on positionne intellectuellement ce globe sur la prostate ou au-dessus du ventre, on utilise le masseur prostatique et dès qu'on a ces petites étincelles en fait de plaisir qui viennent du masseur prostatique, qui peuvent être infime au début, on imagine que le globe s'illumine.
Quand vous dites on utilise le masseur prostatique, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'insérer dans le rectum avec beaucoup de lubrifiant.
Oui, tout à fait.
Et sans trop y toucher après. Et alors, voilà. Il faut aussi dire que c'est pas très grand. Hein. Ça fait quoi la taille d'une petite main, quoi.
Même pas. Un masseur prostatique, en fait, en diamètre, ça fait entre 2 et 2,5. D'accord, quelque chose comme ça. Il peut y en avoir des plus gros. Hein. Mais les premiers font entre 2 et 2,5. Et en termes de longueur insérée, c'est à peu près 8 cm.
Oui, ça, donc c'est vraiment...
C'est un doigt.
C'est ça, ça ressemble pas...
C'est un gros doigt.
Pour rassurer les hommes hétéros et tout, ça ressemble pas à un pénis, ça ressemble à...
Non,
encore une fois, à un dispositif médical, en
Exactement.
Fait. C'est pas effrayant comme objet.
Exactement.
Donc,
et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que en termes de masseurs prostatiques, donc il y en a de tout type, et ceux qui sont les plus efficaces, finalement, c'est ceux qui sont les plus petits. Parce que ça nécessite... le masseur bouge et il bouge par les contractions que l'on fait en fait de son périnée et de l'anus, pour faire assez simple. Et donc au plus il est petit, au plus les mouvements que l'on va faire vont pouvoir masser la prostate de manière fine. Et donc ça va générer plus de plaisir qu'un gros masseur qui va ne pas être très très mobile et qui va beaucoup moins stimuler la prostate.
Donc au début, en gros, l'orgasme prostatique, ça s'apprend parce qu'on peut pas en avoir un tout de suite en fait. Dès qu'on stimule la prostate, on va pas avoir un orgasme immédiatement.
C'est très rare. Très rare d'avoir un orgasme tout de suite. En général, il faut quelques séances donc de stimulation, de ce que j'appelais de rewiring, en fait, de cette technique.
Donc pour s'habituer à recevoir les informations de cette zone-là. Okay.
Et il ne faut pas aussi stimuler le pénis. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important au début. Au début. Ensuite, une fois qu'on a eu les orgasmes prostatiques, on peut se remettre à stimuler le pénis et pour combiner les orgasmes. C'est là où ça devient très très intéressant. Mais en tout cas, au début, si on stimule le pénis, en fait, on va avoir un effet au niveau du cerveau, en fait, qui va être que le cerveau va capter toutes les informations venant du pénis et va ignorer les informations venant de la prostate. C'est un petit peu comme si pour faire imager, les informations venant de la prostate étant, par exemple, une flamme d'une bougie, si on la met devant le soleil qui représente le pénis, évidemment on va pas voir la flamme de la bougie. Mmh. On va regarder le soleil et puis il va nous éblouir. Donc il faut supprimer le soleil et donc supprimer les stimulations du pénis et se concentrer sur les petites étincelles qui viennent de la prostate pour les identifier clairement. Voilà.
Okay. Et pendant toute cette stimulation, il n'y a pas d'érection? Il n'y a pas d'éjaculation?
Non. Non, non. C'est vraiment la stimulation de la glande qui fait que, avec une technique de respiration aussi, on va amener de l'énergie autour, dans le périnée et autour de la prostate. Et petit à petit, en fait, la prostate va se réveiller, va commencer à titiller, on va avoir ces fameux papillons. Hein, et puis petit à petit, on va ressentir de plus en plus de plaisir, sans stimuler le pénis, justement. Et puis, au bout d'un certain temps, le plaisir va monter en flèche, et on va ressentir un orgasme, qui est un orgasme plus long que l'orgasme éjaculatoire. On va dire l'orgasme éjaculatoire dure entre, on va dire, quelques secondes. Ça dépend des hommes, et puis ça dépend aussi de la longueur de la masturbation, par exemple, ou du coït. Alors que l'orgasme de la prostate, il va durer entre 10, 15, 20 secondes, voire un petit peu plus. Donc il peut vraiment être beaucoup, beaucoup plus long. Il est un tout petit peu moins fort que l'orgasme éjaculatoire, mais comme il dure plus longtemps, en fait, il est très intéressant à avoir.
Il dure plus longtemps et on peut en avoir beaucoup.
C'est ça
à la suite.
C'est ça. On peut, quand on connaît bien son corps, alors tout est une histoire voilà, de connaissance, vous l'avez compris, hein, de connaissance de son corps, mais on peut en avoir, on peut les enchaîner sans problème plusieurs, au minimum 2-3 fois.
Mais donc on peut passer 5 minutes à avoir un orgasme?
Ah oui, oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait des séances où je passais 45 minutes. Hein.
Ah, juste à avoir des orgasmes?
Oui, et qui se répétaient, oui. Oui, tout à fait.
Et est-ce qu'en termes de sensation, c'est la même sensation qu'un orgasme éjaculatoire?
Non, l'orgasme éjaculatoire est très, comme j'expliquais, enfin, moi j'aime le dire en pointe, c'est-à-dire que, en fait, le plaisir monte très fort. On éjacule et ensuite il redescend très vite. Mmh. L'orgasme prostatique, en fait, monte un petit peu moins fort, un petit peu moins haut, mais en fait redescend plus lentement. Donc voilà, c'est la différence entre un pic et une dune de sable.
Hein. Ok, d'accord. Ok, très bien pour l'image. Est-ce qu'un masseur prostatique, c'est différent d'un plug ou d'un godemichet?
Oui, ça n'a strictement rien à voir, en fait. Alors évidemment, ça va au même endroit. D'accord, le plug, c'est un dispositif qui est fait en fait globalement pour être porté donc au niveau de l'anus dans les sphincters. Donc le plug est fait pour être positionné là et pour apporter du plaisir par sa position, pour préparer à une pénétration par exemple, ou pour être porté relativement longtemps et donc porter du plaisir simplement parce qu'il est là. Il n'est pas forcément là pour stimuler la prostate, bien qu'il puisse la stimuler puisque c'est à peu près au même endroit, mais ce n'est pas vraiment fait pour. Le masseur prostatique, c'est... alors le godemichet, lui, est plus la représentation pénis. D'accord, il est là pour pénétrer, pour faire des allers-retours dans l'anus, mais pas pour stimuler aussi la prostate spécifiquement. Et ensuite, le masseur prostatique, c'est un dispositif en fait qui contient ce qu'on appelle un bras périnéal, c'est-à-dire que en fait il y a une partie du masseur qui va appuyer sur le périnée. Et une partie du masseur qui va être donc insérée dans l'anus et qui va, évidemment, comme c'est inséré dans l'anus, en fait, il y a une de ces parties qui est en biseau et qui va se positionner au niveau des sphincters. Et quand les sphincters, en fait, vont jouer, c'est-à-dire qu'ils vont se refermer, hein, puisque c'est des muscles, avec la lubrification, ça va faire un pivot entre le périnée, en fait, et cette partie-là. Et ce pivot va stimuler la prostate. Et donc, on va avoir des masseurs qui ne sont pas utilisés avec les mains, hein, qui sont que l'on insère et ensuite les mains sont libres.
On fait juste rien.
Et c'est son propre corps qui va s'auto-masser. Donc, c'est assez génial. Et d'ailleurs, c'est très important ça parce que le massage prostatique, qui est l'orgasme de la prostate, vient, je dirais, du lâcher prise. Et en fait, on n'arrive pas à voir, et ça c'est un gros problème pour les hommes, les hommes sont souvent dans le contrôle. Et l'orgasme prostatique vient du lâcher prise. Voilà. Mais c'est très compliqué parce que les hommes veulent vraiment avoir un orgasme, parce que c'est tellement facile pour eux d'avoir un orgasme éjaculatoire, qu'ils veulent, je dirais, avoir cette facilité sur l'orgasme de la prostate. Or, moi j'ai eu ce problème. Hein. Au début, je me suis massé. J'ai fait plusieurs séances, je ne sais plus combien, on va dire 5-6, et je n'arrivais pas. Et puis, la dernière séance, en fait, je me suis dit, de toute façon, c'est agréable, je le fais et j'attends rien. Et c'est dans cette séance-là que j'ai eu mon premier orgasme prostatique. C'est un petit peu quand on regarde quelque chose, en fait, et qu'on le voit qui est hors du champ de vision, et que quand on regarde, en fait, là où on a vu la chose, en fait, on ne la voit plus. L'orgasme prostatique, c'est comme ça.
Finalement, en vous entendant, je continue de penser que les orgasmes masculins, contrairement à leur réputation, sont aussi complexes que les orgasmes féminins, qui ont la réputation d'être mystérieux, inatteignables, alors que, en gros, les orgasmes pour les garçons, ce serait très simple à atteindre et on ne se poserait pas de questions, alors qu'en fait, non, c'est tout aussi riche en réalité.
Bien sûr. Oui, on a tendance à considérer que l'orgasme éjaculatoire, et donc du coup, c'est simple, hein, mais en fait, le corps est riche et complexe. Et je pense qu'il y a vraiment autant d'orgasmes chez les femmes que chez les hommes.
Vous pensez qu'on a autant de potentiel de plaisir, les hommes et les femmes, ou pas?
Ah, clairement, oui. Mmh. Ah, oui.
Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un très vieux mythe aussi qui voudrait que les orgasmes féminins soient beaucoup plus puissants que les orgasmes masculins. Donc, c'est un mythe qui date de l'Antiquité. Hein. Au moins, on a une trace de ça dans les Métamorphoses d'Ovide avec le mythe de Tirésias qui vit pendant 7 ans dans le corps d'une femme et à qui Junon demande. Qui a la plus grosse jouissance des femmes ou des hommes, et lui il dit les femmes, et on a hérité de cette croyance-là, mais les dernières études montrent que par imagerie cérébrale, qu'il y a très très peu de différence dans l'intensité des plaisirs ressentis par les hommes ou par les femmes.
Donc, ouais, ça m'étonne pas du tout, et je pense que ce qu'il faut simplement, c'est que les hommes, et les femmes d'ailleurs, mais prennent du temps pour s'explorer. C'est-à-dire c'est trop facile d'avoir une sexualité, je dirais, classique, de faire quelques préliminaires, pouf, un coït, et puis dodo. Alors, évidemment, je schématise en disant ça. Hein.
Mais c'est quand même le scénario majoritaire.
Voilà,
quoi,
exactement, ouais. et c'est comme ça que la sexualité d'énormément de personnes, alors en France et ailleurs, se déroule.
Pour terminer, Adam, quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs?
Alors, ce que je recommanderais, en fait, c'est un livre. C'est un livre qui a été écrit par Mantak Shia, qui s'appelle « L'homme multi-orgasmique », et qui est finalement un livre très intéressant à lire, puisqu'il parle des différents orgasmes dont j'ai parlé, pas tous, mais en tout cas, donne vraiment beaucoup d'explications là-dessus. Et donc, c'est un livre... qu'il faut avoir sur sa table de chevet quand on veut s'explorer et cheminer autrement.
Merci beaucoup, Adam. C'était le premier épisode de la deuxième saison des Couilles sur la table. Dans le prochain épisode, on va parler des villes viriles, avec le géographe Yves Rébeau, ou de comment les villes dans lesquelles nous vivons sont pensées pour les hommes, construites pour les hommes et vivables surtout pour les hommes. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio dans lequel on s'intéresse aux masculinités et à la virilité. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast sur vos téléphones, tablettes et autres ordinateurs. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le dire sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous pouvez toujours m'écrire à lescouillessurlatable@binge.audio. J'adore vous lire et cette saison, je vais vous donner la parole. Je vous souhaite de joyeuses explorations, d'intenses découvertes et toutes sortes d'aventures plaisantes.
Binge.
Ah oui, et aussi, je voulais vous conseiller les nouveaux podcasts qu'on a créés cette année à Binge Audio. Il y en a un que j'adore, c'est Kif Taras, présenté par Rokaya Diallo et Grace Lee. Salut Grace.
Salut Victor.
Salut Rokaya.
Salut Victor.
Alors, de quoi ça parle, Kif Taras?
Comme son nom l'indique, ça parle de kiff, mais ça parle surtout de questions raciales, mais sur un ton convivial, conversation.
Entre copines, comme on est, on parle de mes expériences en tant qu'asiatique.
Mes expériences en tant que femme noire, et on parle évidemment des autres, des arabes, des blancs, des roms, on se prive pas.
Et c'est disponible sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast, Deezer, Spotify, sur vos tablettes, vos téléphones et autres ordinateurs.